3. Le Gondor et les héritiers d'Anarion. 31 rois se succédèrent au Gondor après Anarion, tombé devant la Barad-dûr. Sur plus d'un millénaire, bien que la guerre n'ait jamais cessé d'assaillir le Roborn, les Dúnedain du Sud acquirent puissance et richesse sur terre et sur mer jusqu'au règne d'Atanatar II, surnommé Alcarin le Glorieux. Mais même alors, on entrevoyait déjà les signes du déclin, car les nobles du Sud se mariaient tardivement et ils avaient peu d'enfants. Le premier roi sans postérité fut Falastur, et le second, Narmakil Ier, fils d'Atanatar Alcarin. Ce fut Ostoer, le septième roi, qui rebâtit Minas Anor, où les rois eurent dès lors coutume de passer l'été, la préférant à Osgiliath. En son temps, le Gondor essuya la première attaque des hommes sauvages de l'Est. Mais Tarostar, son fils, les vainquit et les expulsa, et il prit le nom de Rómhendakil, vainqueur de l'Est. Il tomba par ailleurs au combat contre de nouvelles hordes d'Orientais. Tulambar, son fils, le vengea et conquit de grands territoires à l'Est. Ce fut avec Talanon, le douzième roi, que commençait la lignée des rois navigateurs qui constituèrent des forces navales afin d'accroître l'empire du Gondor le long des côtes, à l'ouest et au sud des bouches de l'Anduin. Pour commémorer ses victoires en tant que capitaine des armées, Talanon ceignit la couronne sous le nom de Falastur, seigneur des côtes. Et Arnil Ier, son neveu, qui lui succéda, réhabilita l'ancien port de Pelargir et se fit construire une grande escadre. Il assiégea Umbar par mer et par terre et s'en empara, et se devint un port important et une grande place forte au sein du Gondor. Mais Earnil ne survit pas longtemps à son triomphe. Il périt avec maints navires et maints hommes dans une terrible tempête au large d'Umbar. Kiriandil, son fils, poursuivit la construction de navires. Mais les hommes du Harad, sous la conduite des seigneurs qui avaient été chassés d'Umbar, marchèrent en grande force sur cette place, et Kiriandil tomba sous leur glaive au Haradweth. Umbar fut investi de nombreuses années durant, mais la puissance navale du Gondor tint le Harad en échec. Kiriaher, fils de Kiriandil, attendit son heure, puis, ayant enfin rassemblé une force suffisante, il descendit du nord par terre et par mer, et franchissant le fleuve Harnen, ses armées écrasèrent complètement les hommes du Harad, et leurs rois furent forcés de reconnaître la souveraineté du Gondor. 1050. Kiriaher prit alors le nom de Riamendakil, vainqueur du Sud. Nul n'osa plus défier la puissance de Riamendakil tant que dura son règne. Celui-ci dura 134 ans, le plus long de toute la lignée d'Anarion, hormis un seul. En son temps, la puissance du Gondor atteignit son zénith. Le royaume s'étendait alors au nord, jusqu'au champ de la Celebrant, et aux lisières sud de Grand-Peur, jusqu'au Griffleur à l'ouest, à l'est jusqu'à la mer intérieure du Rhône, et au sud jusqu'au fleuve Arnen, et de là le long de la côte jusqu'à la péninsule du port d'Umbar. Les hommes dévots de l'Anduin reconnaissaient son autorité, et les rois du Harad rendaient hommage aux Gondor, eux dont les fils vivaient en otage à la cour du roi. Le Mordor était désolé, mais sous la surveillance de grandes places fortes gardant l'école. Ainsi prit fin la lignée des rois navigateurs. Atanatar Alcarin, fils de Yarmendakil, vécut dans un grand faste, et les gens disaient « Les pierres précieuses au Gondor sont des cailloux qui servent au jeu des enfants. » Mais Atanatar aimait l'aisance et ne fit rien pour sauvegarder la puissance dont il avait hérité, et ses deux fils étaient de même tempérament. Le déclin du Gondor était déjà amorcé avant sa mort, et ses ennemis ne purent manquer de l'observer. La surveillance du Mordor fut négligée. Mais ce ne fut pas avant le règne de Valacar que s'abattit sur le Gondor une première grande calamité. La guerre civile, qui prit le nom de lutte fratricide, à la source de grandes pertes et dommages considérables qui ne furent jamais pleinement réparés. Minalcar, fils de Calmakil, était un homme d'une grande vigueur. Et en 1240, Narmakil, voulant s'affranchir de toute responsabilité, le nomma régent du royaume. Il assuma dès lors le gouvernement du Gondor au nom des rois, jusqu'au jour où il succéda à son père. Son souci premier tenait aux hommes du Nord. Ceux-ci s'étaient beaucoup multipliés à la faveur de la paix que la puissance du Gondor avait amenée. Ils étaient en grâce auprès des rois, car leur ascendance les plaçait au plus près des Dunedain parmi les hommes moindres, remontant au même peuple dont étaient issus les Edain de jadis. Et les rois leur concédèrent de vastes territoires par-delà Landuin, au sud de Verbois-le-Grand, afin qu'ils leur servent de défense contre les hommes de l'Est. Car les attaques des Orientais par le passé étaient venues surtout de la plaine entre la mer intérieure et les montagnes de Sandre. Sous le règne de Narmakil Ier, ces attaques reprirent, quoique peu appuyées au début. Mais il vint aux oreilles du régent que les hommes du Nord n'étaient pas toujours demeurés fidèles au Gondor. Ainsi, d'aucuns s'alliaient parfois aux Orientais ou par soif de butin, ou pour servir leurs intérêts dans leurs querelles de princes. Ainsi, en 1248, Minalcar se porta à la tête d'une grande force et vainquit une grande armée d'Orientais entre le Rhovanion et la mer intérieure, détruisant tous leurs campements et leurs villages à l'est de la mer. Il prit alors le nom de Rhomendakil. À son retour, Rhomendakil fortifia la rive occidentale de l'Anduin jusqu'au confluent avec la Lime Claire et interdit à tout étranger de descendre le fleuve au-delà des Éminmuil. Ce fut lui qui érigea les piliers des Algonath à l'entrée du Nen Ithoel. Mais comme il lui fallait des hommes, et qu'il désirait consolider le lien entre le Gondor et les hommes du Nord, il prit bon nombre d'entre eux à son service, dont certains à qui il conféra de hauts grades au sein de ses armées. Rhomendakil montra une faveur toute particulière à Vidugavia, qui l'avait aidé à la guerre. Lui se proclama roi du Rhovanion, et c'était en vérité le plus puissant des princes du Nord, bien que son royaume se limitât au territoire entre Verbois et la rivière Kelduin, autrement appelée la rivière courante. En 1250, Rhomendakil envoya son fils Valacar auprès de Vidugavia en qualité d'ambassadeur, afin qu'il se familiarise avec la langue, les manières et les politiques des hommes du Nord. Mais Valacar outrepassa les desseins de son père. Il finit par s'attacher aux terres du Nord et à leur peuple, et il épousa Vidumavi, fille de Vidugavia. Ce mariage devait être l'élément déclencheur de la lutte fratricide. Car les nobles du Gondor regardaient avec suspicion les hommes du Nord qui allaient et venaient parmi eux. Et c'était une chose inouïe que l'héritier de la couronne, ou l'un quelconque des fils du roi, dût épouser une femme de race étrangère et de moindre ascendance. Il y avait déjà des soulèvements dans les provinces du Sud quand le roi Valacar se fit vieux. Sa reine avait été une belle et noble dame, mais n'avait pas vécu longtemps, comme le voulait le sort des hommes moindres. Et les Dunedain craignaient que sa descendance ne soit affligée de la même tare et n'ait pas la majesté des rois des hommes. Ils refusaient également de reconnaître son fils comme leur seigneur, car bien qu'ayant pris le nom d'Eldakar, il était né en pays étranger sous le nom de Vinitharia, qu'il tenait du peuple de sa mère. Ainsi, lorsque Eldakar succéda à son père, la guerre éclata au Gondor. Mais Eldakar ne se laissa pas facilement dépouiller de son héritage. Au lignage du Gondor s'ajoutait chez lui l'esprit intrépide des hommes du Nord. Il était beau et courageux, et ne semblait pas devoir vieillir plus rapidement que son père. Quand les insurgés sous la conduite des descendants des rois se soulevèrent contre lui, il leur résista jusqu'au bout de ses forces. Enfin, il fut assiégé à Osgiliath, et il l'atteint longtemps, jusqu'à ce que la faim et les forces supérieures des rebelles l'enchassent, livrant la cité aux flammes. Au cours de ce siège et dans l'incendie qui s'ensuivit, la tour du dôme d'Osgiliath fut détruite, et le Palantir perdu au fond des eaux. Mais Eldakar échappa à ses adversaires et se réfugia dans le nord auprès de ses parents du Rhovanion. Nombreux sont ceux qui alors se rallièrent à lui, hommes du Nord au service du Gondor, mais aussi Dunedain des provinces septentrionales du royaume. Car ceux-ci étaient nombreux à l'avoir pris en estime, mais bien d'autres encore vinrent à haïr son usurpateur. Ce n'était autre que Castamir, le petit-fils de Calimétar, cadet de Rhomendakil II. Non seulement figurait-il, de par son extraction, parmi les plus proches prétendants à la couronne, mais il était celui des rebelles qui comptait le plus de partisans, car il était capitaine de navire, soutenu par les habitants des côtes et des grands havres de Pelargir et d'Umbar. Castamir n'était pas monté depuis bien longtemps sur le trône qu'il se révéla hautain et inclément. C'était un homme cruel, ce qui s'était déjà vérifié lors de la prise d'Osgiliath. Ornendil, fils d'Eldakar, capturé par l'assiégeant, fut mis à mort sur son commandement. Et dans la cité, le massacre et les ravages perpétrés en son nom allèrent bien au-delà des impératifs de la guerre. Les gens de Minas Tirith et d'Ithilienne s'en souvinrent longtemps, et leur amour pour Castamir tiédit encore davantage quand on vit qu'il se souciait fort peu des terres et songeait uniquement aux flottes et projetait de déplacer le siège du royaume à Pelargir. Ainsi, il n'était roi que depuis 10 ans, quand Eldakar, voyant son heure arriver, descendit du nord à la tête d'une grande armée, et les gens du Calenardon, de l'Anorienne et de l'Ithilienne affluèrent sous son drapeau. Il y eut une grande bataille au Lébénine et au passage de l'Éruy, où fut versée une bonne part du plus noble sang du Gondor. Eldakar tua lui-même Castamir en combat singulier et fut ainsi vengé de la mort d'Ornendil. Mais les fils de Castamir prirent la fuite, et avec quelques autres de leurs parents et nombre de gens des navires, ils résistèrent longtemps à Pelargir. Lorsqu'ils y eurent rassemblé toutes les forces possibles, car Eldakar ne disposait d'aucune flotte pour les assaillir par mer, ils mirent les voiles et allèrent s'établir à Umbar. Là, ils fondèrent un refuge pour tous les ennemis du roi et une seigneurie indépendante de sa couronne. Umbar fit la guerre aux Gondor durant maintes générations encore, une menace pour ses côtes et pour tout trafic maritime. Il ne fut de nouveau complètement soumis qu'à l'époque d'Elessar, et le Gondor du Sud devint une terre disputée entre les corsaires et les rois. La perte d'Umbar fut désastreuse pour le Gondor, non seulement parce que le royaume se trouvait amoindri au sud et du même coup son ascendant sur les hommes du Harad, mais aussi parce que c'était le lieu où Ar-Pharazôn le Doré, dernier roi de Númenor, avait débarqué pour rabattre les prétentions de Sauron. Même les suivants d'Elendil, malgré la tragédie qui devait s'en suivre, se rappelaient avec fierté la grande armée d'Ar-Pharazôn, venue là-bas des confins de la mer. Et sur la plus haute colline du promontoire surplombant le Havre, ils avaient érigé une grande colonne blanche en guise de monument. Elle était couronnée d'un globe de cristal qui accrochait les rayons du soleil et de la lune, et ce globe luisait comme une brillante étoile qui se voyait par temps clair jusque sur les rivages du Gondor ou sur la mer de l'Ouest, loin au large des côtes. Elle demeura jusqu'au jour où, après la deuxième résurgence de Sauron, alors imminente, Umbar tomba sous la domination de ses serviteurs qui renversèrent la stèle, commémorant sa défaite. Après le retour d'Eldakar, le sang de la maison royale et des autres maisons des Dunedain se mêla encore de celui d'hommes moindres. Car les grands avaient péri en nombre lors de la lutte fratricide. Mais Eldakar était favorable aux hommes du Nord qui l'avaient aidé à reprendre la couronne, et le Gondor fut repeuplé de ces hommes qui affluaient du Rhovanion. Ce métissage ne parut pas, au début, précipiter le déclin des Dunedain comme on l'avait craint, mais ce déclin se poursuivit tout de même peu à peu comme il avait commencé. Car il y a fort à croire qu'il tenait à la terre du milieu elle-même et au fait que les descendants de Númenor, conséquence de la chute du pays de l'étoile, se voyaient lentement dépossédés de leurs dons. Eldakar vécut jusque dans sa 235e année, et son règne dura 58 ans, dont 10 passés en exil. La seconde et la pire des calamités s'abattit sur le Gondor durant le règne de Telemnar, le 26e roi, après que son père Minardil, fils d'Eldakar, eut été tué à Pelargir par les corsaires d'Umbar, avec à leur tête Angamaité et Sangayando, les arrière-petits-fils de Castamir. Une peste mortelle survint peu après, amenée par des vents sombres venus de l'Est. Elle emporta le roi et tous ses enfants, et de larges pans de la population, à Osgiliath en particulier. Alors, par lassitude et par pénurie d'hommes, la surveillance des frontières du Mordor cessa, et les forteresses gardant les cols furent laissées sans garnison. Comme on le remarqua par la suite, ces événements survenaient alors même que l'ombre s'épaississait à Verbois, et que reparaissaient quantité de choses mauvaises, signe de la résurgence de Sauron. Vrai, les ennemis du Gondor souffraient eux aussi, sans quoi ils n'auraient pas manqué de l'écraser dans sa faiblesse. Mais Sauron, lui, pouvait attendre, et peut-être n'avait-il d'autre souhait que de voir le Mordor s'ouvrir. À la mort du roi Telemnar, l'arbre blanc de Minas Anor se fana également et mourut. Mais Tarondor, son neveu et son successeur, replanta un semis dans la citadelle. Ce fut sous son règne que la maison du roi se transporta définitivement à Minas Anor, car Osgiliath était en partie déserte et de plus en plus délabrée. Ceux qui, pour fuir la peste, s'étaient établis en Ithilienne ou dans les Vaux de l'Ouest, étaient peu nombreux à vouloir y retourner. Tarondor, couronné fort jeune, connut le plus long règne de tous les rois du Gondor. Mais il ne parvint guère qu'à réorganiser l'intérieur du royaume et à rebâtir lentement sa puissance. Mais son fils Telumetar, se rappelant la mort de Minardil et déplorant l'insolence des corsaires, rassembla ses forces et se lança à l'assaut d'Umbar en 1810. Les derniers descendants de Castamir périrent dans cette guerre, et Umbar retourna un temps en possession des rois. Telumetar adjoignit alors à son nom le titre d'Umbar d'Akil. Mais les nouveaux malheurs qui affligèrent bientôt le Gondor lui ravirent Umbar une fois de plus, et il tomba aux mains des hommes du Harad.